Bon, le gros sujet à Québec hier, parce qu'on terminait là, les travaux de la commission parlementaire sur la fameuse application Alerte COVID, là. Le gouvernement est où, d'après toi, Louis?
Bien là, écoute, moi, ce que j'entends, c'est que François Legault n'est pas tout à fait vendu, même pas du tout vendu à l'utilité de cette en fait, nuance. Il est vendu à l'utilité si, évidemment, on a besoin d'un outil pour permettre de retracer les gens qui éventuellement pourraient avoir été mis en contact avec d'autres personnes qui sont atteintes de la COVID. Tout le monde s'entend pour dire, si on a des outils comme ça, c'est parfait. Mais là où il demande à être convaincu, c'est sur la sécurité de ces applications-là. Et François Legault est loin d'être convaincu qu'on est rendu à un point là où on doit imposer, ou pas imposer, mais en fait proposer une application comme celle-là. Moi, j'entends qu'il se fait l'écho des citoyens là qui s'inquiètent pour la protection des renseignements personnels. Et hier, on a entendu la Commission d'accès à l'information, la Commission des droits de la personne dire « ça prend un cadre juridique » pour pouvoir encadrer justement l'utilisation de cette application-là. Et François Legault, en ce moment, craint qu'il y ait une fuite de renseignements personnels, même si on nous dit « non, il n'y a pas de danger parce qu'on utilise le Bluetooth, puis il n'y a pas de géolocalisation, etc. » Il y a quand même des inconnus là-dedans. C'est extrêmement complexe comment ça fonctionne, ces applications-là.
Mais tu vois, hier, j'écoutais Éric Kerr, à qui on va parler tantôt, qui, lui, n'est pas trop dérangé par le fait que la compagnie ne se soit pas pointée. Là.
Ouais.
Me semble que ça aurait été utile quand même là, que cette compagnie-là vienne répondre à des questions techniques sur son logiciel.
Ben tout à fait, qu'on puisse comprendre aussi, et puis donner l'information aux citoyens. Moi, je vois le sondage qui a été fait. J'ai eu des informations sur le sondage là.
Qu'est-ce que ça dit?
Ben en fait, le sondage, il y a 17 000 Québécois là qui entre le 8 juillet et le 2 août ont répondu sur le site du gouvernement, se sont prononcés sur la fameuse application. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris comment elle fonctionnait? Parce qu'il y a 76% des gens qui croient l'utilité de l'application, 60% qui disent en avoir besoin. Moi, là, je me suis informé sur l'application. On me l'a expliqué. C'est extrêmement complexe, la façon dont ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on est conscient de tout ce que ça implique utiliser cette application-là? Moi, on me dit que c'est Somme là qui est derrière, entre autres, cette consultation, parce qu'on a très peu de détails sur la façon dont ça a été mené. On nous dit là qu'on va avoir les détails, tous les résultats de la consultation au cours des prochains jours. Il reste que pour pouvoir se prononcer adéquatement là-dessus, les Québécois doivent avoir l'information sur le fonctionnement. Et c'est tellement compliqué, Paul. On m'a expliqué, là, bon, l'échange de codes d'un téléphone à un autre, puis c'est assis à côté d'une personne pendant tant de temps, mais là, il y a un échange entre les téléphones, puis etc. Alors, c'est complexe à comprendre, et c'est ça qui fait craindre François Legault qu'il pourrait y avoir éventuellement une fuite de renseignements. Imagine, là, on est à 2 ans des élections. On lance cette application-là. Il y a des milliers de Québécois qui embarquent dedans. Et puis finalement, au bout d'un an et demi, on se rend compte qu'il y a une fuite de renseignements. Alors là, t'es pas loin de l'élection, puis t'es en train de te créer une bombe à retardement, finalement. Alors, il y a un peu de crainte en ce sens-là. Et il y a aussi le fait que, bon, combien de gens vont utiliser l'application pour la rendre efficace? Parce que là, avec les taux qu'on a vus, là, il y a 2% des gens en France qui se sont tournés vers l'application. On va dire une chose, tu n'auras pas des gros résultats avec ça. Je pense que le plus élevé, c'est en Allemagne à 20%. Puis encore là, à 20%, tu n'es pas capable d'avoir une efficacité qui soit optimale pour détecter les gens qui éventuellement pourraient être contaminés. Alors, ça donne quoi de se créer une application qui ne sera pas utilisée à hauteur nécessaire pour être vraiment efficace, avec les risques que ça comporte sur les renseignements personnels, et si on regarde du côté politique, que ça puisse éventuellement te péter au visage.
Très bien. Parlons du Parti libéral, quand même, et de sa chef Dominique Anglade.
Écoute, ils ont un énorme défi en ce moment. Les autres, ils n'ont pas eu de course à la chefferie, donc ils n'ont pas été capables d'aller chercher la visibilité que ça amène. Et là, depuis quelques jours, je parle à des gens, puis on me raconte que le grand défi qu'on a en ce moment au Parti libéral, c'est de faire connaître Dominique Anglade. Parce que dans les sondages de notoriété, elle atteint même pas 50 %. Il y a 49 % des gens qui disent « Ah oui, je sais c'est qui Dominique Anglade ». Alors, c'est tout un défi, là, parce que si tu pars en élection dans 2 ans, ça va te prendre quelqu'un, un visage qui est connu puis auquel on est capable de s'identifier. L'autre défi auquel on fait face au Parti libéral, c'est de se trouver maintenant une identité. Parce que pendant des années, le Parti libéral a été identifié comme étant le Parti fédéraliste à Québec. Tu sais, dans le temps, tu avais une dualité, tu avais le Parti québécois qui était souverainiste, puis tu avais le Parti libéral qui était fédéraliste. Donc, tu arrivais en élection, ça se jouait là-dessus, puis là, finalement, ben le meilleur l'emportait, puis donc, tu sais, il y avait une espèce d'enjeu qui est polarisant. Mais à la dernière élection, ça s'est pas joué sur la question référendaire, sur la question de la Constitution. Donc, le Parti libéral regarde ça, puis il se dit, à part être un parti fédéraliste, qu'est-ce qu'on est au juste? Et c'est ça qu'on est en train de chercher en ce moment pour être capable de le vendre aux Québécois. Et là, ça veut dire que on va devoir avoir une certaine imagination. On va devoir, parce que tu sais, le Parti libéral a toujours dit, nous, on est le parti de l'économie, mais la CAQ aussi dit la même chose, on est le parti de l'économie. Donc, de quel parti de l'économie
C'est-tu comment on appelle ça?
Est-ce qu'on parle?
C'est-tu comment on appelle ça? Quand tu dis qu'ils ont besoin de relever de grands défis puis de faire une introspection, on appelle ça un purgatoire.
Oui, exact.
Tu comprends? Parce que ça veut dire, là, ils ont été au pouvoir pendant des années avec des bons coups puis aussi beaucoup de scandales puis un peu pas mal d'arrogance, tu comprends? Puis pas habitués à perdre, là.
Ouais.
Puis quand ils ont perdu contre Mme Marois, ben ça n'a pas duré longtemps, puis ils sont revenus. Puis tu sais, Jean Lapierre disait, c'est un purgatoire, parce que lui, il l'avait connu au fédéral avec les libéraux après le scandale des commandites. Il disait tout le temps, il faut que ça dure un certain moment pour que, dans l'opinion publique, ça change, et que surtout pour que le parti puisse se remettre. Et le problème des libéraux actuellement, c'est ça, là.
Oui. Bien, ils sont identifiés à cette image-là qu'ils ont eue depuis quelques années. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils mettent de l'avant des nouveaux visages. Ils essaient de trouver des gens qui ne sont pas associés aux problèmes qu'a eu le Parti libéral au cours des dernières années. Quand la reprise a eu lieu au printemps, on a eu 3 semaines de travaux parlementaires, Dominique Anglade et André Fortin, deux députés libéraux, dont on peut pas dire qu'ils sont associés aux problèmes d'éthique qu'a eu le Parti libéral, mettons, ont été mis ensemble. On faisait la question principale de Dominique Anglade. Tu avais André Fortin qui était derrière, qui était un jeune député et qui représente l'avenir, en quelque sorte, du Parti libéral lui aussi. Et là, on associe à eux Marois Risky. On me parle beaucoup de Monsef Deragy, là, qui est un nouveau député qui vient d'être élu à la dernière élection et dont on dit beaucoup de bien, qui est dans la quarantaine. Alors, on essaie de trouver des gens qui vont changer, qui vont casser l'image du Parti libéral, de Jean Charest, par exemple, et en partie de Philippe Couillard aussi, même s'il n'y a pas eu de grands scandales sous Philippe Couillard, il a été empêtré dans l'héritage du Parti libéral pendant tout son mandat. Alors, c'est ça qu'on veut essayer de casser et de trouver une nouvelle identité économique au Parti libéral. Je voyais là, la commission jeunesse cette semaine qui est arrivée avec des propositions assez audacieuses, là, quand on a parlé, entre autres, de l'impôt négatif. Je vais te dire une chose, c'est un concept qui est assez audacieux, même si c'est pas nouveau, c'est assez audacieux. Ça n'a pas été essayé dans bien des pays, mais moi, je m'attendais à ce que les députés libéraux s'écartent de ces propositions-là, qui sont quand même pas mal à gauche, et finalement, ça n'a pas été le cas.
Explique aux auditeurs le concept, parce que c'est intéressant de voir que le Parti libéral joue avec ça, là. Enfin, les jeunes libéraux.
L'impôt négatif, là, faut donner des exemples. C'est un peu complexe, mais c'est tout le monde paie, mettons, 25 % d'impôts. Alors, mettons que tu gagnes 4 000 par année, là, qui est un très, 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 très petit revenu, tu vas payer 1 000 d'impôts, mais tout le monde reçoit le même retour d'impôts. Donc, tu reçois, mettons, 10 000 d'impôts, de retour d'impôts dans ton année. Alors, si tu as gagné 4 000, tu as payé 1 000, tu es 9 000 au-dessus. Là, à un moment donné, tu fais une médiane, tu arrives, mettons, à 40 000 $ Tu gagnes 40 000 $ tu payes 25 % de ce 40 000 $-là, donc 10 000 $ Tu reçois 10 000 $ donc toi, tu es à impôt nul. Mais si tu es au-dessus de ça, tu vas payer 25 % d'impôt sur ton salaire, tu vas recevoir le 10 000 $ mais comme ton 25 % représente plus de 10 000 $ tu es en impôt négatif. Alors, on dit que c'est plus équitable, Parce que tout le monde paye de l'impôt, ce qui n'est pas le cas en ce moment dans notre système. Si tu es en bas d'un certain revenu, tu vas payer de l'impôt sur ton salaire, mais tu vas le récupérer ensuite dans ton rapport d'impôt. Alors, ça permet d'avoir une certaine équité et de faire en sorte que les riches, mettons, tu gagnes 1 million, là, tu sais, tu payes 250 000 piastres d'impôt, puis tu reçois juste 10 000 de retour, tu es 240 000 en impôt négatif. Alors là, c'est beaucoup d'argent qui rentre dans les coffres. Ça, c'est le principe. Est-ce que ça s'applique partout de la même façon? Ça, il y a des débats politiques là-dessus qui durent depuis des années. Mais il reste que c'est une idée qui est avant-gardiste. Puis les libéraux ont dit, ben, on pourrait au moins l'étudier, puis aller voir ce que ça a l'air, puis voir si c'est possible. Tout comme le revenu minimum garanti que François Blais avait commencé à étudier, puis finalement, on ne l'a pas fait. Mais il reste que les libéraux se disent, on est le parti de l'économie, puis allons donc explorer autre chose pour proposer autre chose aux Québécois.
Merci, Louis, d'avoir été là cette semaine.
Ça m'a fait plaisir.
Salut, à bientôt. 7h, presque 14, la 40, monsieur.